France Musique.
Que c'est donc bête, que c'est idiot de rire comme ça.
Un des 20 musiques folles, Priscille Lafitte, France Musique.
Bienvenue dans la grande revue des années 20, dans les Roaring Twenties, cette décennie rugissante à New York. Aujourd'hui, dernier épisode dans la grande métropole mondiale. Nous allons manger chez les Gershwin, boire chez les Rachmaninoff et danser au Cotton Club au son de l'orchestre de Duke Ellington. Dans le Greenwich Village. Ce samedi soir, dans l'appartement du parolier Howard Deitz, le candélabre en cristal du salon se met à trembler. On avait l'impression, raconte-t-il, qu'il se passait une sorte de festival de jazz là-haut. Alors j'ai dit à ma femme, avec qui je devais me rendre au théâtre, « Attends un instant, je vais monter leur demander d'arrêter ce vacarme. Si le lustre tombe, il risque de nous tuer. » Howard Deitz monte et frappe à la porte. Quelqu'un lui ouvre avec précaution, lui fait signe de ne pas déranger le musicien. Quelques 40 personnes sont installées par terre, autour du piano de concert, devant lequel est assis un brun ténébreux, en train de jouer et de chanter d'une voix riche et gutturale. Son talent est indiscutable. Howard Deitz s'installe. Au bout d'un certain temps, sa femme, impatiente de ne pas le voir revenir, monte, elle aussi. Il va à la porte, lui fait signe de ne pas déranger et de s'asseoir. « Nous ne sommes jamais arrivés au théâtre et nous ne nous sommes pas davantage inquiétés du lustre, poursuit le parolier de Broadway. Dorénavant, chaque samedi soir, nous nous rendions chez nos voisins du dessus pour entendre le précieux concert que nous offrait George Gershwin. Autre habitué de ces soirées autour du piano, Fred et Adèle Astaire, qui chantent ici tous deux, accoudés au clavier de Gershwin.
There's a little rhythm, 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 the pitter pass through my brain. So darn persistent, the day is distant, but it'll drive me insane.
Up in the morning without any warning, and hangs around me all day.
Someday I'll think of doing, someday I'll speak of doing, I hope it listens when I say.
Do 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 do
Au milieu des années 20, le dandy le plus prisé de New York investit une maison de 5 étages en granit blanc sur la 110e rue, près du Riverside Drive. C'est une vaste demeure assez spacieuse pour accueillir les parents, les frères et la sœur de Gershwin. Le 5e étage est celui dévolu à George. Des boiseries, une décoration stylée, de profonds fauteuils, une cheminée en briques. L'endroit est sobre et luxueux. On y trouve l'un des 3 pianos sur lesquels il travaille. Les 2 autres, Steinway, sont dans les étages inférieurs. Il a même fait aménager au-dessus de son lit des placards spéciaux pour ranger ses manuscrits et ses partitions. C'est là qu'il travaille avec son frère, Ira, qu'il reçoit ses amis comme ses conquêtes. C'est l'antre intime de Gershwin.
Really cannot blame them a bit, 'cause you're a hit wherever you flit. I know it's so, but dearie, oh, you'll never know the blues that go right through me. I've got the you don't know the half of it, dearie blue. The trouble is you have so many from whom to choose. Meet the wife. I've got the you don't know the half of it, dearie blue.
Plus bas sur la Riverside Drive, cette grande avenue qui longe le fleuve Hudson sur la rive ouest de Manhattan, se trouve la maison des Rachmaninoff. L'adresse des Rachmaninoff est connue parmi les artistes russes qui passent par New York City, notamment les comédiens de la troupe du Moscow Art Theater en tournée. Car si Rachmaninoff poursuit sa vie de musicien mondain, jouant en récital, se produisant pour le président Coolidge à la Maison Blanche, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est recevoir des Russes de passage aux États-Unis. Pour Rachmaninoff, c'est comme retrouver la ville de Moscou elle-même. Il partage des anecdotes de coulisses avec tout le bagout du russe moscovite. Et le visage de Rachmaninoff, habituellement si pensif et concentré, s'ouvre comme celui d'un enfant. Ses rides disparaissent. Il se laisse aller au rire le plus joyeux, la tête renversée en arrière, essuyant des larmes de joie du revers de la main. Le chanteur et acteur Fedor Chaliapine débarque à une de ses soirées. Tard dans la nuit, il imite le joueur d'accordéon sous, retenu à la station de police. Il mime la jeune femme qui ajuste son voile devant un miroir et la vieille femme qui prie à l'église. À 2h du matin, quand les convives commencent à se lever pour rentrer chez eux, Chaliapine s'interpose. « Où allez-vous ? Je me suis seulement arrêté pour respirer un coup, mais avec Sergueï Vassilievitch, on va vraiment vous montrer quelque chose. » Et devant les premiers rangs assis par terre, à la turque, avec Rachmaninoff donc, au piano, Chaliapine reprend encore et encore des chants de paysans, des extraits d'opéra, des chants de tziganes, et finalement, à la demande de Rachmaninoff, les yeux noirs. «
очі чорні, очі жгучі, очі страшні і прекрасні. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вновь. Жгуче пламенне, і манят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды и запрет.
Очень черная, очень гучная, очень страшная.
Не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье.
Очи черные, очи жгучие, очи страшные. И прекрасная,
вы сгубили меня, очень страшная, унесли навек мое счастье.
Очи черные, очи жгучие, очи страшные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не была.
Ah, comme Chaliapine soupire, sanglote sur le refrain final, vous m'avez ruiné. Rachmaninov n'endort pas de la nuit de ce soupir. Le mal du pays l'étreint. Le pianiste arrange trois chants russes pour orchestre et chœur. Depuis combien de temps travaille-t-il sur ces chants? Il n'en parle pas publiquement avant l'automne 1927, mais nul doute que ces soirées russes dans sa maison new-yorkaise l'ont inspiré. Le premier chant vient d'un recueil russe qu'il chérit particulièrement. Le second, Chaliapine l'a chanté pour lui. Et le troisième chant, il l'a enregistré aux côtés de Nadiezhda Plevitskaya, interprète très prisée en Russie et émigrée depuis la Révolution, comme lui.
Меня молоду победил. Машеньки Люлина. Хоча, хоча меня могут упасть, я ж не знаю и не ведаю за что. Ле-ле-ле, Лёшеньки Люлина, я не знаю и не ведаю за что. За какую, за такую, за беду. Лилю, эх, Лёшеньки Люлина, только было в моей беды, у соседа на беседе я была. Эх, Лёшеньки Люлина, лилю, у соседа на беседе я была, да спросив холостого сидела. Эх, Лёшеньки Люлина, супротив холостого сидела, холостому стакан мёду поднесла. Эх, Лёшеньки Люлина, и холостой стакан мёду принимал, к стакану белые руки прижимала. Эй, Лёшеньки Люлина, к стакану белые руки прижимал, при народе сударушкой называла. Эх, Люшка-люшка, сударушка-лебедушка моя, понравилась погодушка твоя. Эх, Люшеньки-люшка, убелились румянец, едет, едет мой ревнивый муж домой, хоча, хоча меня молоду побить, право слово, хочет он меня побить, я же не знаю и не ведаю за что.
Сократите со лицами ладолой, сократите со лицами ладолой, едет, едет мой ревнивый муж домой. О, ай, люли, ай, дай, мужики, едет, едет мой ревнивый муж домой, он несет подарок на собой.
Руки прижимал, при народе слов.
Ces trois chansons russes vont sauver le concert de Rachmaninov donné au Carnegie Hall le 22 novembre 1927. Ce sont les seules compositions qui vont trouver grâce aux yeux de la critique, car après une année sabbatique, Rachmaninov a écrit un quatrième concerto pour piano, reclus dans son appartement new-yorkais et qui est très mal reçu par la presse. Rachmaninov a bien l'intuition que ce concerto pêche par sa longueur et par manque d'originalité. Lorsqu'il a reçu une copie papier de ce quatrième concerto, il a eu un vertige, qu'il a exprimé à son ami et compositeur Nikolai Medner. Je le cite « La taille de l'œuvre, 110 pages, me terrifie. Je suis trop lâche pour vérifier sa durée. J'ai besoin d'être moins loquace, d'abréger. J'en suis honteux. Apparemment, le problème est surtout dans le troisième mouvement. » Qu'est-ce que j'ai accumulé comme musique? Je ne vois que 8 mesures à couper, et encore, ce n'est que dans le premier mouvement qui n'est pas démesurément long. Et je vois à présent que l'orchestre ne se tait presque jamais, ce qui est un grand péché. Ce n'est pas un concerto pour piano, mais pour piano et orchestre. Je remarque aussi que le thème du deuxième mouvement est le même que le premier mouvement du concerto de Schumann. Comment se fait-il que tu n'aies pas remarqué ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Questionne Rachmaninov dans cette lettre à son ami à qui il dédie cette œuvre. Thank you. Le 22 novembre 1927, au Carnegie Hall, le public se montre enthousiaste, mais la critique est cinglante. Dans le Herald Tribune, le lendemain, paraît cet article, je cite, « Malgré le camouflage quelque peu naïf de gamme par ton, quelques harmonies dissonantes, le nouveau concerto de M. Rachmaninoff est ancré essentiellement dans le XIXe siècle. Tchaïkovski aurait pu l'écrire. » Autre critique. « Le concerto est interminable. C'est un pot-pourri de Liszt et de Puccini, de Chopin et de Tchaïkovski. Même Mendelssohn a droit à son moment. La partition orchestrale a la richesse d'un nougat et le piano scintille d'un nombre incalculable de petites astuces et effets de manche. Cette dégouline de sentiments. » C'est de la musique de super salon. Cécile Chaminade aurait pu écrire la même chose pour peu qu'elle ait bu 3 verres de vodka. Ce 4e concerto est un tel désastre que Rachmaninoff retire l'œuvre de ses concerts américains. Deux mois et demi plus tard, le 8 janvier 1928, un jeune pianiste âgé de 25 ans regonfle le moral et la fierté de Sergueï Rachmaninoff. C'est Vladimir Horowitz, fraîchement débarqué à New York. Ils se rencontrent tous deux dans le sous-sol de l'atelier Steinway & Sons. Horowitz se révèle être son meilleur interprète et quelques jours après cette rencontre, il joue le troisième concerto de Rachmaninoff au Carnegie Hall. C'est une période décidément faste pour les mélomanes du Carnegie Hall. On y entend aussi une jeune claveciniste qui révolutionne l'écoute de Jean-Sébastien Bach, Wanda Landowska.
Des vins musique folle, Priscille Lafitte, France Musique.
Dans le public du Carnegie Hall, on voit souvent Paul Whiteman, le chef d'orchestre qui a créé la Rhapsody in Blue avec Gershwin et qui amène parfois les musiciens de son orchestre de jazz écouter des orchestres symphoniques. Bix Beiderbecke, en particulier, est avide de nouvelles musiques. Il s'imprègne des œuvres de Stravinsky et de Debussy. Le clarinettiste Pee Wee Russell se souvient ainsi avoir été invité à la dernière minute avec Bix Beiderbecke et l'arrangeur Don Murray dans une loge du Carnegie Hall. Avant de s'y rendre, ils ont descendu un peu de whisky pour fêter ça et se sont habillés pour la circonstance. Une fois dans la loge, toutes les jumelles étaient braquées sur nous, se souvient Pee Wee Russell. On puait l'alcool, mais on avait de l'allure. Don Murray était vautré sur sa chaise, la chaise a glissé et Murray s'est affalé par terre. Bix et moi avions suffisamment de savoir-vivre pour faire mine de ne rien remarquer. Murray s'est relevé tranquillement et s'est rassis sur le bord de sa chaise. À l'entracte, il n'en finissait plus de s'excuser. Après la reprise, au beau milieu du premier morceau, il s'est mis à se trémousser. La chaise a de nouveau glissé et il est encore tombé. Bix et moi, nous n'avons pas soufflé mot, Murray non plus. Nous avons entrouvert le rideau qui fermait la loge et nous sommes partis sans rien dire. Nous étions terriblement embarrassés. À quel concert ont assisté ces trois compères ? Pee Wee Russell ne s'en souvient pas. Peut-être est-ce un nouveau récital donné par Yascha Heifetz, revenu dans la prestigieuse salle de concert en janvier 1928 après une longue tournée internationale. Heifetz joue la troisième sonate pour violon de Brahms, la troisième sonate de Jean-Sébastien Bach, le concerto de Glazounov et une série de petites pièces légères, arrangées souvent par ses soins à partir des dernières compositions de ses contemporains, comme ce Rota de Manuel de Falla. Mais les critiques réservent quelques piques pour Yascha Heifetz, accusé de se complaire dans des pièces courtes pour satisfaire l'ego du public. À quoi tient un arrangement réussi et une orchestration réussie? Ce sont les questions que se pose Duke Ellington au même moment.
Thank you.
De l'autre côté de Central Park, au 644 de la Lenox Avenue, au cœur de Harlem, c'est le Cotton Club, lieu nocturne dessiné sur mesure pour les blancs qui souhaitent s'encanailler dans le quartier noir. Décoré de fresques et de bas-reliefs, de palmiers et de cases, évoquant la jungle et la végétation du sud des États-Unis, le Cotton Club accueille des revues spectaculaires et renouvelle ses spectacles tous les 6 mois. Les habitants du quartier se pressent pour voir défiler les Cadillac, les Rolls-Royce et autres Duesenberg et apercevoir les célébrités qui viennent ici, comme Lady Mountbatten, qui surnomme le lieu l'aristocratie de Harlem. L'orchestre de Duke Ellington débarque le 4 décembre 1927 avec 3 ou 4 heures de retard car il a été appelé en dernière minute. Il jouait à Philadelphie la veille et ne compte alors que 6 musiciens. Il faut doubler l'effectif de l'orchestre en urgence. Mais Duke sait où trouver de bons musiciens. En général, ils attendent du travail dans la ruelle à l'arrière du Coney's Inn. Dans l'entourage du Duke, tout le monde parie qu'ils ne tiendront pas 1 mois au Cotton Club. Tous, sauf Mexico. Mexico est un personnage à Harlem. Il tient alors un bar à alcool, le gin mill le plus fréquenté de la 133e rue, où circulent les musiciens, le tuba sur l'épaule ou la trompette dans une main, en route pour quelques joutes musicales. Dans son gin mill, Mexico sert ce qu'il appelle du 99%. 1 degré de plus et vous tombez raide mort. On est en pleine prohibition et les habitués peuvent passer des nuits à regarder Mexico distiller son gin. Eh bien, le barman Mexico relève le pari pour 100 dollars et il gagne. Duke Ellington ne quitte la salle du Cotton Club que 5 années plus tard. Les gigs du Duke deviennent tellement réputés que la radio WHN s'y installe régulièrement pour diffuser des concerts en direct du Cotton Club avec l'animateur Ted Husing, un commentateur sportif bien connu à l'époque.
Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club. It's great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. And if you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music. The rip-roaring harmony hound, none other than Duke Ellington. Take your bow, Dukey. First number tonight's gonna play a brand new little tune entitled The Cotton Club Stomp. Let her go.
Thank you.
well, 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 well. You've heard this in Peoria. You never listen to so much music. Admit it. This certainly is a gala night. Tables filled with smiling faces. Everybody happy. Plenty of dancing for all of us. Which reminds us, have you ever heard Dookie play that low-down Misty Morning? Let her go. What a mob, what a mob. Never have seen the club so jammed. Not a spot the size of a dime on the floor. And why, I ask you, because there is only one band like this every 1,000 years. A real Hades in Harlem. What's that? Oh, yes. Lady at the ringside table asks us to play Gone to Town. Everybody ready? Let her go, boys. Harmonica Charlie is here, and how he plays that thing. Let's give him a great big hand, boys. Well, you people wanted to do things, go places, see sights, spend money, need I say more? It's marvelous the way you've all warmed up to our little show. How I do love applause. Dookie loves applause, don't you, Dookie? Now, in response to your enthusiasm, they're going to take your breath away with a brand new dance entitled Freeze and Melt. Freeze them, boys. Thank you.
Musique folle, Priscille Lafitte, France Musique, c'est l'été.
Un soir, Maurice Ravel est là, dans le public du Cotton Club, avec George Gershwin. Le compositeur français est en tournée aux États-Unis. Ravel a profité de sa présence à New York pour se rendre au Savoy Ballroom et au Connie's Inn, découvrir le Lindy Hop et le Hot Jazz. Son emploi du temps est dense, il est sollicité de toutes parts, mais il parvient à fêter son 53e anniversaire chez la mezzo-soprano Eva Gauthier, en présence de Gershwin, qui lui joue sa Rhapsody in Blue et The Man I Love. Le lendemain, le 8 mars 1928, Maurice Ravel est invité à diriger au Carnegie Hall l'Orchestre symphonique de New York dans Le tombeau de Couperin, Tzigane avec Samuel Doshkin au violon, La valse et La rhapsodie espagnole. Ravel comprend-il alors ce qui fait la richesse de l'orchestre de Duke Ellington ? A-t-il perçu l'individualité des compagnons que le Duke s'est choisi avec soin, lui qui écrit pour eux, veut tout savoir de leur personnalité jusqu'à la façon dont ils jouent aux cartes. Il y a le batteur Sonny Greer, premier complice de Duke dans les virées nocturnes des rent parties de Harlem. Il fait sonner un arsenal incomparable de percussions, des carillons, des gongs, des timbales, des cymbales par douzaines, des toms, des tambours, des grosses caisses, de quoi équiper la section entière de percussionnistes d'un orchestre symphonique. Il y a aussi le trompettiste Bobber Miley. Ce dernier est compositeur et improvisateur. Il a rejoint Duke en 1926 et l'orchestre commence vraiment à trouver un son sous son influence par ses recherches d'effets expressionnistes, de sourdines wah-wah et de growl, cet effet de gorge qui fait grogner l'instrument à la façon des bluesmen. Avec le tromboniste Charles Ives, ils produisent des sonorités extravagantes qui collent parfaitement avec le décor et la danse exotique des revues au Cotton Club. D'où vient le sens de l'arrangement du Duke ? Le chef a étudié d'arrache-pied l'harmonie et l'orchestration, seul, ou en suivant les conseils de personnages éclairés comme Will Marion Cook et surtout Will Vodderi, l'un des compositeurs noirs américains à se faire un nom à Broadway et arrangeur aussi pour les Ziegfeld Follies. Ellington fait les grandes heures du Cotton Club, où le public se rassasie de cette nouvelle musique et des revues pour lesquelles sont recrutées de jeunes filles de moins de 21 ans et de plus d'1m67, oui c'est précis, noires certes, mais plutôt claires de peau, qui doivent attendre leur tour sur scène dans des loges exiguës. Le Cotton Club ne veut pas que ses artistes soient trop noirs. Louis Armstrong y est d'ailleurs refusé. Pourquoi le public blanc se presse-t-il au Cotton Club ? Pour zioter des jeunes filles légèrement vêtues ou pour entendre la gouaille des blues women chanter l'amour comme Edith Wilson ? Ce public est-il réceptif au mouvement artistique de la fierté noire, celui du Harlem Renaissance ? Mais le New York interlope où s'organisent des bals costumés et où tous les travestissements et toutes les séductions sont possibles ne se développe pas au Cotton Club, mais dans le dédale des rues de Harlem. Dans ces lieux se chantent les blues, des femmes qui boivent et vitupèrent autant que les hommes, le blues qui dénonce la violence conjugale et assume le lesbianisme. Bessie Smith est une des figures majeures de cette scène qu'on va entendre dans son fameux « Downhearted Blues » et avant elle, on va écouter Ma Rainey dans « Prove It On Me Blues » qui dit « Oui, je porte la veste et la cravate, oui, je préfère les femmes ». Mais on ne m'a jamais prise en flagrant délit.
When I last night had a good big fight, everything seemed to go wrong. I looked up to my surprise. don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks said I'm crooked. I didn't know where she took it. I want the whole world to know. Sister, I do it. Ain't nobody caught me. You got to prove it on me. When I was last night with a crowd of my friends, there must have been women, cause I don't like no men. It's true, I wear color and a tie. Make the wind go all the while. But to say I do it, ain't nobody caught me. You sure got to prove it on me.
Apples in my hand.
Je tiens le monde dans une bouteille, son bouchon dans ma main, jusqu'à ce que vous, les hommes, m'obéissiez. C'est un refrain reconnu par l'activiste Angela Davis comme un credo féministe. La fin des années 20 marque les débuts de Billie Holiday, encore adolescente mais chantant déjà dans les bars de Harlem. Ces lieux seront durablement secoués par les effets de la Grande Dépression de 1929. On y servira même la soupe populaire. Tandis qu'à Chicago, c'est la débandade et les règlements de compte entre gangs rivaux, notamment celui d'Al Capone. Le temps est à l'orage, aussi à New York, comme le chante Ethel Waters au Cotton Club au début des années 1930.
Don't know why. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I have. This pittering, pattering, beating and splattering drives me mad. Love, 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 love. This misery is just too much for me. Can't go on. All I have in life is gone, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time.
Le désarroi lié à la grande pauvreté qui s'abat sur les États-Unis va trouver son expression dans le blues rêche, nu, de Skip James dans ce Hard Time Killing Blues, enregistré en 1931. La parenthèse enchantée des années folles, de ces Roaring Twenties, se referme définitivement.
Times it harder than ever been before. And the people are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where they go. Tell you people just before I go, these hard times will kill you just right along slow. When you hear me singing my through lonesome songs. These hard times can last us so very long. If I ever get off this killing floor, I'll never get down this low no more. No, 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 no. I'll never get down this low no more. And you say you had money, you better be sure. Don't these hard times will drive you from door to door.
Réalisation Catherine Prin-Legal, prise de son Xavier Attau, chargée de production Marie Ferdinand. Cette grande revue des années 20 s'arrêtera dans la ville lumière, le Paris des années folles, la semaine prochaine. Tout de suite, on retrouve Martin Penney et son tour de chant.
À réécouter sur francemusique.fr.